I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque semaine avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Marie-Laure Sauty de Chalon qui a été PDG du groupe Au Féminin entre 2010 et 2018 et qui a eu avant ça de nombreuses expériences à la tête d'agences et de régies publicitaires. Ensemble, on évoque son éducation, elle qui est allée dans une école de filles et qui a évolué malgré tout dans une famille de femmes fortes. On discute aussi de son parcours dans le monde de la publicité qui est extrêmement masculin, du moins au poste de direction. Elle partage également sa technique qu'elle a utilisée pour échapper au plafond de verre et pourquoi elle a aujourd'hui décidé de lancer plusieurs marques de cosmétiques en collaboration avec sa propre fille. Voilà, un entretien très riche et très dense comme d'habitude dans Histoire de succès. J'espère que l'expérience et les conseils de Marie-Laure vous intéresseront autant qu'ils m'ont captivé. Un grand merci à vous et bonne écoute. Cette semaine, on est avec Marie-Laure Sauty de Chalon. Salut.
Salut.
Ça va?
Très bien.
Oh Marie-Laure, quel plaisir de te retrouver à mon micro. On se connaît depuis quand, Marie-Laure? Depuis
une dizaine d'années, je pense.
Oh là là.
Au moins.
À l'époque, t'étais la boss d'Au Féminin.
Voilà. Et toi, c'était très important pour nous parce que tu étais mademoiselle, c'est-à-dire c'était la relève.
Eh ben écoute, je suis parti. Au revoir.
Ouais. Moi aussi.
Toi aussi, ouais, on va en reparler un petit peu, mais donc t'as quitté OFEM il y a 2 ans maintenant,
oui.
C'est ça? Pour recréer ta structure aujourd'hui, 2 structures d'ailleurs.
Oui, mais un peu différent.
Ouais.
C'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai choisi de revenir à l'entrepreneuriat minuscule.
Ouais. Mais c'était là, et en attendant, c'est quand même ta première création.
Oui, c'est ma première création.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir toujours créé beaucoup de choses, mais toujours à l'intérieur de structures qui étaient plus grandes.
On va reparler un petit peu de tout ça. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Marie-Laure quand elle avait 7-8 ans?
7-8 ans, je ne sais pas si je sais définir exactement à quoi je ressemblais à ce moment-là. Mmh. Une petite fille, très petite fille, dans une école de filles, qui arrive après deux grands frères. Ah là, c'est quand même...
Oui, ils sont en train de tuer quelqu'un au-dessus. Non mais vas-y.
On fait comme si ou alors
ouais.
On s'interrompt et après
non,
on recommence.
On va dire qu'il y a des travaux au-dessus et puis voilà.
On dit la vérité comme ça.
Il y a des travaux au-dessus de ton appartement.
Non mais parce qu'on peut aussi aller ailleurs. Bon, on verra.
T'inquiète.
Bon, t'inquiète.
Si il cogne trop fort,
on changera.
Ouais.
Oui, donc une petite fille, très fille, dans une école de filles qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Je pense que ce que je veux faire à 7-8 ans, c'est m'amuser et jouer. Jouer, beaucoup jouer.
T'as été éduquée dans quelle sorte de famille?
Dans une famille assez traditionnelle, où les femmes ne travaillaient pas, mais où on était très féministes. Ce qui était un peu un paradoxe, parce que ma grand-mère était en classe avec Simone de Beauvoir.
Ouais.
Donc ça donnait quelque chose de particulier. Et en même temps, les femmes ne travaillaient pas sans frustration. Elles étaient là pour élever la famille. Et moi, c'était pas très vite, j'ai vu que c'était pas mon modèle.
Et comment on peut être féministe à l'époque sans travailler alors? Ça se concrétise comment?
C'est une génération de femmes qui s'est révélée par le mariage, donc qui considère que l'homme est là pour travailler. Donc c'est vraiment un anti-modèle quand même. Hein. C'est assez étonnant parce que c'est la dépendance. Moi, très vite, même si justement chez moi, les femmes ne souffraient pas de cette dépendance, moi, je ne l'imaginais pas.
Comment t'évoluais, toi, en tant que petite fille à l'intérieur de ce modèle-là?
Moi, je ressentais qu'on était élevés pareil que les garçons, sauf que les garçons allaient travailler et les filles, non. Et ça, c'est un truc qui est sans doute la dernière génération possible, et encore dans quelques pays à une certaine époque. Les travaux sont quand même assez sérieux. Donc je m'élève contre les injustices très vite. Mais en même temps, comme je suis aussi une petite fille favorisée, j'en ai pas la même conscience que d'autres.
Ça se concrétise comment, le fait que tu t'élèves contre les injustices à l'école, par exemple?
Non, parce que je suis dans une école de filles.
Ah ouais.
Donc, tu vois pas. Non, plutôt dans le traitement des filles par rapport aux garçons, dans le fait... Non, sérieusement.
On a changé parce que vraiment le marteau était pénible. Ouais, donc tu disais que tu étais dans une école de filles, c'est ça?
Ouais, je suis dans une école de filles qui est faite pour élever les filles intelligemment, pas pour que les filles deviennent des domestiques,
okay.
Mais pour que les filles deviennent des femmes accomplies. C'est donc ambitieux intellectuellement, mais ce qui est assez frappant, c'est que je trouve que assez vite finalement les filles se rangeront un peu derrière l'idée qu'elles vont être des bonnes épouses.
Et comment toi, tu sors justement de ce modèle-là par rapport à...
Parce que je m'en vais et je vais au lycée et que je me confronte à la réalité, quoi. Et donc, c'est absolument nécessaire. On peut pas être élevé dans un cocon.
Et là, ton lycée, il est mixte?
Et là, mon lycée est évidemment mixte. C'est
comment
une obligation.
Ça se passe, la découverte?
Et tu exploses et tu dis à tes parents, j'ai pas d'autre choix. Mais c'est pas une grosse révolution quand même. C'est finalement revenir juste à la normalité.
Ok. Comment tu découvres, toi, ce monde mixte à l'époque? Parce que j'imagine avoir été élevée.
J'ai pas l'impression d'avoir une découverte incroyable. J'étais élevée avec des cousins. J'avais pas l'impression de découvrir les garçons pour la première
ouais.
fois. Non, quand même. Même si j'ai envie de me moquer de moi-même, je peux pas trop dire ça. Donc j'ai pas vraiment de surprise, mais surtout. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir maintenant, par exemple, que dans certains lieux féministes aux États-Unis, on remilite pour séparer les garçons des filles parce qu'on pense que c'est mieux pour les filles, en réalité, parce qu'elles sont moins, dès le début, conditionnées et obstruées. Je trouve ça assez intéressant parce que moi, j'ai fait partie, au contraire, de la génération qui pensait l'inverse. Donc, c'est toujours intéressant quand tu as des mouvements en avant et en arrière, comme ça.
Parce que la non-mixité, elle apporte plein de choses, et notamment le fait de mettre les filles dans un cocon, justement, et de les aider à se soulever,
oui.
De pas se faire écrabouiller par les petits
Exactement.
Garçons.
Exactement. Mais elle apporte aussi, du coup, une trop grande protection pour le moment où tu sors de ce cocon.
Oui, parce qu'à un moment donné, il faut revenir à la vraie vie.
De toute façon, le gros sujet qui est le sujet central, c'est les filles sont meilleures en classe, partout dans tous les pays. Donc comment faire, en fait? Est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui se passe qui fait qu'à un moment donné les garçons accélèrent, à un moment donné où les filles se donnent un peu moins cette autorisation-là, et le sujet n'est pas tellement, en fait, jeune, il est après 30 ans, c'est-à-dire souvent le moment où tu commences à avoir un enfant.
Ah, tu penses vraiment que la
oui, il y a des études assez intéressantes qui ont montré que les filles démarrent même leur première expérience professionnelle avec un avantage de salaire quelquefois de l'ordre de 2-3%. Et c'est à 30 ans qu'il y a une bascule qui se fait. Et là, que les injustices se creusent avec un avantage aux hommes très fort.
Donc 30 ans, l'âge du premier enfant à peu près. Quoi,
oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des anticipations négatives.
Ok. Tu vas me raconter un petit peu après comment t'as fait pour
on revient à l'enfance.
Pour gérer ça, toi. Mais oui, effectivement, on revient peut-être à ton adolescence à ce moment-là.
Ouais.
Toi, comment ça se passe pour toi dans le lycée, au sein de ce lycée, alors?
Je me demande si j'arrive à qualifier vraiment ce qui se passe. Je suis une élève plutôt bonne élève, mais pas très bonne élève. J'ai toujours autant envie de parler et de m'amuser plus que de travailler. J'ai pas vraiment de projection professionnelle. Je sais pas très bien ce que je veux faire. Mais ce que j'aime, c'est à cette époque-là, il y a des vagues de gens qui arrivent dans les lycées parce qu'ils fuient leur pays, et c'est une découverte. Je me souviens d'avoir rencontré beaucoup de Libanais déjà à cette époque, de cette diaspora, et là tu découvres des vrais parcours différents, et c'est ça qui est vraiment important, c'est cette mixité-là.
Ça t'apporte quoi à l'époque?
Mais c'est tellement invraisemblable de rencontrer des enfants qui, eux, ont dû fuir leur pays, ont dû changer de langue, alors que toi, tu vis à Paris, très protégé. C'est la seule chose importante au fond. Moi, la seule chose qui me paraît importante, c'est d'être confronté aux autres et se rendre compte que sa situation à soi est tellement plus favorisée. Je pense que cette conscience-là, elle va être très très importante pour la suite.
Ok. Ok. Et comment ça se concrétise? Alors tu files des coups de main, tu cherches à les intégrer.
Non, je pense que justement le truc le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de différence en réalité. Ouais. Hein, c'est que tu prennes conscience que alors que pour l'autre c'est infiniment plus difficile, tu vas le traiter comme s'il était exactement ton égal.
Ok. Tu passes le bac.
Je passe le bac.
Tu fais Sciences Po après, c'est ça?
Après, non, je vais faire du droit.
Okay.
Mon père me dit à ce moment-là, tu devrais commencer à travailler parce que lui, il a travaillé à partir de 15 ans en faisant ses études le soir. Il voit pas très bien l'intérêt des études. Mais moi, quand même, j'avais un peu envie. J'avais pas non plus de passion. Donc, je vais faire du droit. Ça va m'intéresser beaucoup. Et puis, Sciences Po, là aussi, d'ailleurs, ma famille va plutôt me dire, mais à quoi ça sert? Tu ferais mieux de travailler. Donc, il y a une pression chez moi pour plutôt travailler que de faire des études. Et donc, je sais pas si j'en ai autant profité finalement. J'ai effectivement travaillé assez tôt. J'ai fait des petits boulots tout le temps. Je répondais à Stop ou Encore, ce qui était un standard téléphonique pour Europe, pour choisir si les chansons devaient continuer ou si elles devaient s'arrêter. Donc, tu vois, des trucs qui étaient déjà un tout petit peu dans les médias.
Ouais.
Pas très valorisants, mais c'est pour gagner de l'argent.
Ok. T'avais vraiment cette envie de gagner de l'argent, c'est ça?
Ouais, j'avais envie de commencer la vie, en fait. De pas trop traîner. Maintenant, je me dis, mais c'est idiot, j'aurais dû partir, voyager, faire d'autres choses. Moi, j'étais pas dans cette logique-là.
C'était en réponse à peut-être à ton cocon familial, ou t'avais la sensation que ta mère et ta grand-mère, elles...
Je sais pas si c'était en réponse, c'était en tout cas, comme ça qu'on faisait chez moi, on valorisait énormément le travail. Mmh. C'est-à-dire que je pense que, au risque de paraître désuet, parce que je pense que les 35 heures, la RTT, etc., ont montré plutôt que le travail, c'était chiant. Moi, j'ai toujours eu une énorme passion pour le travail.
Ça devient de ta famille, c'est ça? De ton père, tu disais, peut-être?
Ouais, mon père, il a travaillé énormément. Et ma mère, si elle travaillait pas, même si elle a travaillé ensuite, parce qu'elle est devenue mère, en fait, et elle faisait énormément de trucs dans le monde associatif. Elle a contribué à créer la Fondation Claude Pompidou, qui venait en aide aux hôpitaux, etc., et donc aux malades dans les hôpitaux, les blouses jaunes. Et ouais, on aimait travailler, quoi. Et je continue à aimer ça, c'est-à-dire que même dans les moments où je me dis je pourrais être un peu plus cool, je pense que ça, c'est un peu une drogue, le travail.
Et en vieillissant, tu t'en départis pas de cette drogue?
Non, et d'ailleurs, je vois pas trop pourquoi, en fait, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Je vois bien quelquefois que les gens me regardent avec un air étonné, mais moi, je trouve que c'est le moment, intellectuellement, dans la relation aux autres, qui est vraiment très intéressant avec l'amour, quoi.
Ok. Comment tu vois justement aujourd'hui, bah tu disais les 35 heures, les RTT, etc. Il y a une forme de désamour du travail. Alors je sais pas si c'est un désamour d'ailleurs, mais c'est plutôt un rééquilibrage peut-être par rapport aux années 90, tu vois, de se dire peut-être en fait remettre les choses au centre, remettre une forme d'équilibre en fait au centre de sa vie.
Mais moi j'ai jamais compris ça, parce que bien évidemment que le truc central, c'est l'amour de ta vie, l'amour de tes enfants, l'amour de tes amis. Donc j'ai jamais compris trop cette histoire de work-life balance. J'ai trouvé toujours ça très artificiel, en fait. Je crois que ce que j'ai essayé d'apporter à mes enfants, c'est de leur dire la seule chose que je vous souhaite, c'est de vous éclater dans votre boulot, d'aimer énormément ce que vous faites, et évidemment que l'équilibre se trouve de lui-même. Ce qui est épouvantable, et là où se pose le problème de l'équilibre entre la vie et le travail, c'est si le travail est une source d'ennui et le travail est contraint, et qu'on ne le fait que pour ce qui est le cas de beaucoup de gens, malheureusement, pour pouvoir vivre à ce moment-là. Mais si on aime ce qu'on fait, c'est presque pas du travail, en fait.
Je suis assez d'accord avec ça, mais je peux comprendre après qu'il y ait des gens dans la vie, tu vois, qui soient dans un truc de « ok, c'est chiant, je vais remettre les choses
bien sûr.
Un peu plus équilibrées ».
Moi aussi, je comprends très bien. Mais il n'empêche que à tout travail, tu peux trouver un grand intérêt, ne serait-ce que dans la relation aux autres. Mmh. Et on le voit bien d'ailleurs avec le confinement. Le truc important, c'est comment t'interagis avec les autres.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Pour revenir à ton parcours,
ouais.
En sortant de Sciences Po, tu rentres dans un... À l'Obs, enfin c'est ça.
Oui, je rentre dans un truc très très minable qui s'appelle Atlas Eco, où en fait on rédige des articles sur le PIB des pays et on le décrit. Et je m'occupe à la fois de l'édito et de la pub. Et je ne comprends pas pourquoi et comment et qui peut s'intéresser à ce truc-là en dehors de quelques étudiants de Sciences Po. Et en fait, je le comprendrais un soir en m'apercevant que on ne sert qu'à une seule chose, c'est avoir un numéro de commission paritaire pour pouvoir lancer un numéro Minitel, puisque c'était ça l'autorisation, c'est qu'il fallait être de la presse pour avoir un numéro Minitel et que en fait l'argent de cet éditeur était fait sur le porno.
Quoi? Et,
ben oui.
Ah oui.
Truc extraordinaire. C'est-à-dire que dans la journée, entre étudiants de Sciences Po, on écrivait des trucs sur le PIB de chaque pays. Ça s'appelait France Éco et Atlas Éco. Et le soir, à 18h, comme dans la maison de Barbe Bleue, il y avait un petit escalier. Il y avait des jeunes avec des sacs à dos qui montaient et qui se connectaient derrière des énormes ordis pour répondre en faisant semblant d'être des filles de, ouais. Avec gros seins, de 22 ans. Et en fait, puisque c'était ça le fonctionnement des sites internet, pas des sites internet, des sites Minitel, qui était de faire croire que tu dialoguais, et donc en étant très très payant. Et donc en fait, c'est l'irruption pour moi de business models digitaux qui vont un tout petit peu disrupter les business models traditionnels.
Ceci dit, t'as pas
lancé. Et donc j'ai quand même beaucoup de chance parce que je vois ça à 22 ans, quoi.
C'est comme si Au Féminin avait lancé un Pornhub, en fait, pour se dire, OK, on va aller chercher de l'argent là où
mais surtout,
il est,
non, le truc incroyable, c'est que, parce que c'était ça le génie de Claude Perdriel, de Xavier Niel, etc., c'est d'avoir compris qu'il y avait un outil digital derrière un instrument de façade. Mm. Parce que c'était des instruments de façade, en fait.
Waouh.
C'est stupéfiant.
Et donc, effectivement, l'argent venait de.
L'argent venait du site, ouais, du Minitel.
De la messagerie rose ou
des messageries roses qui étaient des fausses en plus, c'était ça qui était dingue, c'était des fausses.
Ça me fascine que les gens de l'époque le savaient pas, quoi, tu vois.
Bah, tu sais, c'était tellement long de se connecter déjà. Tu te connectais pendant une heure et demie pour avoir 5 minutes de conversation et être coupé 10 fois.
C'est clair.
Et France Télécom te prenait un fric pas possible. Ouais. Tout à coup, tu recevais une facture où tu avais des montants faramineux. Et puis voilà. Donc en fait, tu étais obligé de te connecter de chez quelqu'un d'autre pour pas avoir à payer la facture toi.
Wow.
Quoi. C'était vraiment une arnaque immense, quoi. Mais ça a sauvé une partie de la presse, hein.
Ah, tu veux dire qu'il y avait plusieurs éditeurs qui faisaient ça?
Bien sûr, il y avait beaucoup d'éditeurs qui faisaient ça. Ouais.
Wow. Ok.
Il n'y a jamais eu beaucoup de trucs écrits, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ceux qui ont fait ça sont devenus souvent les grands pros de l'Internet ensuite, parce qu'ils avaient pris une longueur d'avance.
Et tu parles de Xavier Niel, c'est connu.
Voilà, et Simon Signy, etc. Ouais. Ils avaient tous. Ouais.
Ils ont compris un peu le game.
La brief et tout ça, en fait. Ils étaient tous là-dedans.
Ouais.
Tout ça a été assez secret.
Mais. Ouais. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que je pense que c'était quand même un peu gênant et le législateur s'était quand même a fait un drôle de truc. C'est-à-dire qu'être obligé de financer son média par des messageries porno, c'est quand même bizarre, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Bon, alors moi, j'ai jamais fait partie de ça parce que moi, je suis restée toujours du côté.
T'es jamais allée dans le petit escalier.
Voilà, moi, j'ai jamais monté dans le petit escalier de Barbe Bleue. Moi, je suis restée en bas à écrire des articles et à vendre de la pub.
Donc, justement, ouais, on va revenir un peu à ton. Parce que t'es rentrée dans le monde des médias. Par l'intermédiaire de la pub à la base.
Ouais,
donc là,
exactement.
T'es dans l'édito à l'époque.
Voilà, moi, je suis dans l'édito et la pub avec deux noms différents pour être distinguée. Et je me rends compte que la pub est plus facile. Et c'est comme ça que j'entre à Libération. qui est à ce moment-là un journal un peu sulfureux. La pub n'en veut pas beaucoup, la pub corporate n'en veut pas beaucoup parce que c'est encore un journal de tolard où les petites annonces sont gratuites et donc elle aussi particulièrement porno. Mais le journal va devenir le journal de ce qu'on appelle les cadres à l'époque. Il y aura les privatisations et donc la pub va s'envoler. Et c'est ça qui va être sans doute au démarrage de ce que j'ose appeler ma petite notoriété.
Ok. Et comment tu te fais cette petite notoriété?
Bah parce que j'explose le chiffre d'affaires, quoi. Donc à ce moment-là, c'est quand même toujours un peu surprenant.
C'est déjà à l'époque, j'imagine, un manque de mecs, la pub. Ça l'est toujours encore un peu aujourd'hui, mais.
Bah non, c'est-à-dire que c'est un monde de mecs à la tête avec surtout des filles qui bossent, quoi. Ouais.
Et toi, de ce fait-là, dans ce truc-là...
Bah moi, je suis une petite chef de pub qui essaye de faire du chiffre d'affaires. C'est ça, mon démarrage.
Comment tu fais pour grimper les échelons? Alors, petit à petit, tu te fais connaître dans cette régie-là, c'est ça?
Moi, j'ai l'impression que c'est un mélange de hasard, ou de chance et de travail. La chance, c'est d'arriver au bon endroit, au bon moment. Et j'espère qu'on reviendra sur ce truc-là, parce que c'est peut-être un des enseignements les plus forts. Il faut choisir le bon endroit au bon moment. Qui était que ce milieu de la pub et des médias était sous-investi par les jeunes diplômés et avait des vieux crabes qui faisaient essentiellement des déjeuners.
Ouais.
Donc tout à coup, arriver avec une approche pro et beaucoup de travail, tu te distinguais assez rapidement. Et comme il y avait surtout des vieux crabes, du coup, tu te faisait embaucher très rapidement, il n'y avait pas de problème d'emploi. Donc, tous les ans, tu avais des propositions qui te permettaient de progresser.
C'est pour ça, notamment, que j'ai l'impression que tu as bougé très, très vite.
Donc, je bouge très, très vite et tout le temps. Et à un point même qui, maintenant, m'apparaît un peu frénétique. Ou en tout cas, comme employeur, je dirais, non, mais enfin, c'est pas raisonnable. Ouais. Mais en gros, tous les deux ans, je bouge. Et à chaque fois, en prenant des risques aussi, parce que le marché du travail n'est pas difficile à ce moment-là pour les jeunes diplômés. Donc en fait, on me propose de prendre la direction de la pub de la Tribune. Ça fait seulement à peine un an et demi, donc je n'ai pas de compétences de management. Mais Philippe Legris me dit à ce moment-là, je pense que tu vas plutôt échouer, mais c'est pas très grave parce que je te foutrai dehors. Et puis si tu réussis, bah tant mieux. Donc c'est pas très très, quand on le dit comme ça, on a dit c'est pas de la motivation absolument géniale, sauf que moi je l'ai vécu comme une opportunité incroyable de faire confiance à quelqu'un qui n'avait aucune expérience, et donc j'ai effectivement beaucoup travaillé et ça a marché.
Et t'as pas peur à l'époque de te dire ok, si je me plante, ça va me faire
Bah si je me plante, j'aurais appris quelque chose en fait. Et donc je crois que le truc dont je me rends compte maintenant, c'est que aussi ce besoin-là, il était aussi pour échapper au plafond de verre et donc pour ne jamais le rencontrer. Je changeais avant de me cogner.
Ah oui, systématiquement.
Bah oui, sans doute, puisque finalement, dans toute cette première période, je change presque tous les deux ans, donc j'ai pas le temps de me confronter en fait au plafond de verre.
Le plafond de verre, qui est le truc qui fait plafonner en fait à un moment donné les femmes.
Oui, parce que à un moment donné, tu t'aperçois que tu montes dans la hiérarchie et tu es de moins en moins nombreuse. Et là, tu te dis pas du tout, c'est parce que j'ai des qualités. Tu te dis, il s'est passé quelque chose. Et tu t'aperçois que effectivement. C'est un mot horrible, ce plafond de verre, parce que comment tu fais un plafond de verre? Soit tu le traverses et c'est du verre, donc tu es blessé, tu meurs, soit tu le traverses pas.
Et comment tu t'en rends compte, toi, au fur et à mesure que ce plafond de verre arrive? Parce qu'il y a bien un moment donné où tu arrêtes de bouger tous les deux ans.
Ouais.
Et donc tu vas t'y confronter, tôt ou tard.
Non, parce que, en fait, au moment où je me confronte, je change.
À chaque fois?
À chaque fois. Ouais.
Ok.
C'est-à-dire que, par exemple, j'arrive à la régie de France Télévisions, j'ai donc 34 ans, je prends la direction générale, mais je vois bien qu'on va pas me confier le poste au-dessus,
ouais.
Alors que les recettes vont doubler, donc qui est une aventure absolument incroyable. C'est le moment où la pub sur France Télévisions explose, où le cours de TF1 et d'M6 dévisse pour la première fois. La part de marché de la pub de France Télévisions, c'est sous El Kabach, hein, explose.
Ouais.
Je vois bien qu'on va pas me confier. Donc, je change de métier à ce moment-là. Je décide d'éviter cette confrontation pénible, douloureuse.
Ok. Et okay.
Mais peut-être que j'ai tort, hein, c'est-à-dire que j'ai pas voulu et j'ai eu la chance de pouvoir éviter puisqu'on me proposait quelque chose d'autre à un autre moment où j'allais chercher une autre opportunité, j'ai voulu éviter de me faire mal.
Et t'as la sensation que ce fameux plafond de verre, il se concrétise comment exactement ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te voit comme une femme, c'est ça, avant d'être une professionnelle ?
Je sais pas, à France Télévisions, on me fout dehors, donc là, c'est, oui. C'est plus radical. Mais
comment ça se fait qu'on te fout dehors, oui, chez France Télé ?
Oh, c'est une histoire un peu longue et un peu compliquée. Okay. En fait, France Télévisions n'était pas contente d'avoir de la pub puisqu'ils préféraient la redevance. Donc, en fait, t'avais une situation un peu absurde où la régie se battait et où, en fait, ça gênait tout le monde. Ensuite, je sais pas, par exemple, quand j'arrive chez Cara, parce que donc, je redescends à un nouveau métier que je ne connais pas du tout à ce moment-là. Donc,
Donc Cara,
un peu parce que
Cara,
parce
c'est l'agence, c'est
une agence
média,
une agence média dans une petite structure sur un métier que je connais pas, qui est l'analyse média et l'achat d'espace. Donc en fait, je suis dans un job assez valorisé avec des très grosses équipes à la tête de la régie de France Télévisions, et je recommence par la petite porte quand même. Mmh. Et en baissant mon salaire. Donc ça, c'est aussi un chemin sur lequel on reviendra, parce que c'est aussi une façon d'éviter la frustration, mais c'est d'anticiper en fait que tu vas faire moins bien, que tu peux faire moins bien,
okay,
parce que tu vas apprendre quelque chose en contrepartie.
Oui.
Et là, par exemple, aussi, quand tu entres au comité de direction et que t'es la seule femme, tu comprends pas bien pourquoi, en fait. Et donc, que tu poses des questions et qu'à chaque fois, tu t'aperçois que il y a des faux prétextes, en fait. Il y a tout le temps des faux prétextes.
C'est quoi les faux prétextes, par exemple?
C'est que les femmes seraient moins disponibles, que elles ont besoin encore de faire leurs preuves, que dans un groupe comme Cara, je le disais à Jerry Boulman, il fallait que, par exemple pour prendre la tête d'un pays, il fallait que deux mecs aient échoué. Donc une fois que là la situation était franchement désespérée, on osait nommer une femme. Donc oui, c'est ta to-do list est beaucoup plus exigeante.
Et t'as la sensation, toi, enfin, tu vis comment, toi, quand j'imagine que tu découvres ça au fur et à mesure.
Bah, tu découvres pas en une fois, en fait. Oui. Tu le découvres par des récits. Et puis, en fait, tu découvres, au début, tu te dis, mais c'est parce que les femmes veulent moins aller chercher d'ambition. Est-ce qu'elles ont postulé? Est-ce qu'elles ont mis le pied dans la porte? Est-ce qu'elles ont gueulé? C'est une accumulation de facteurs? Tu ne sais pas très bien l'expliquer.
Et donc ?
Par exemple, je sais pas, je me souviens d'un truc qui était assez stupéfiant dans une filiale que j'avais reprise. La fille qui dirigeait l'entité, elle avait un salaire moins élevé et deux fois plus de clients que les hommes qui étaient autour d'elle. Donc là, tu vas voir les RH et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé ? On t'explique que c'est conjoncturel, que ça ne durera pas, que oui, il faut rééquilibrer, etc. Et là, tu es obligé de lutter contre ça. Parce que c'est toujours une succession de facteurs.
Et est-ce que... Parce que c'est dur. Enfin, je pense que c'est compliqué dans une boîte de te pointer, de te dire, en fait, ton salaire, il est deux fois moins élevé.
Ouais.
Pour le rééquilibrer, il faut qu'on te double ton salaire.
Ouais.
C'est
des trucs incroyables. Mais la seule possibilité à cette époque-là, parce que maintenant, heureusement, il y a des mesures légales, c'est de discuter. Tu vois, je me souviens par exemple d'une discussion que j'avais eue où j'avais fait progresser le chiffre d'affaires dans le groupe, et j'en ai rediscuté avec Eric Rebou il n'y a pas très longtemps, de 60%. Et j'avais eu une note de 6 sur 10 d'évaluation. Et donc, je leur ai dit, j'accepte pas cette note tant que vous m'expliquerez pas ce qu'il aurait fallu que je fasse pour avoir 10 sur 10. Et il m'a raconté que ils ont été stupéfaits de ce truc-là. Parce que, en fait, j'ai dit, donc, je ne retournerai pas tant que vous m'aurez pas expliqué. Parce qu'il fallait donc que je fasse 1000%. En fait, c'était quoi? Et quelle note vous avez donnée à ceux qui ont fait le truc normal, c'est-à-dire 10-15% de croissance?
Parce qu'ils ont eu
1,5. Voilà, non, évidemment que non. Ils avaient eu aussi des mêmes genres de notes que moi. J'ai tenu bon. Et il me disait qu'il m'avait trouvé d'une dureté incroyable. Mais j'ai tenu bon jusqu'à ce que j'ai... Parce que je trouvais que j'avais vraiment un cas, là. j'avais pas un truc qui se discutait jusqu'à ce que j'ai le maximum comme note. Mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'essayer de, au début, quand tu vois ce type d'injustice, tu t'essayes d'objectiver en fait et de ne pas le faire sur des critères qui seraient trop personnels ou qui seraient trop affectifs, mais qui seraient vraiment sur des critères précis. Et quand tu commences à faire ça, ben ensuite tu découvres que il y a plein d'autres facteurs et que ces facteurs-là aussi, il faut les lever. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir comme obligation de faire 60%.
Bien
c'est
sûr,
quand même fou.
Sinon, ça devient dingue.
Sinon, ça devient fou.
Et tu disais qu'il t'avait trouvé d'une dureté incroyable.
Oui, il m'a dit ça.
C'est un truc qu'il faut possiblement aussi accepter en tant que femme. C'est-à-dire que peut-être t'es dans une boîte et quand tu vas décider de faire comme t'as fait, c'est-à-dire juste défendre ton cas, on va venir se dire, OK, en fait, Marie-Laure, elle est dure.
Oui. Mais parce que ça, c'est un truc qui est rigolo, c'est qu'il y a peu de schémas féminins parce qu'il y a aussi peu de rôle modèle. Comme tu n'as pas beaucoup dans l'entreprise de rôle modèle qui fait comme toi, du coup, on te ramène toujours. En fait, je disais toujours en rigolant, tu es où Margaret Thatcher, t'apparaît d'une dureté absolument incroyable, ouais. Ou alors tu es la fille copine ou éventuellement qui couche. Enfin, tu vois, t'as très très peu de rôle modèle. Et donc, par exemple, dans toutes les histoires que te racontent les femmes, elles te disent toutes qu'on les a toujours suspectées d'avoir une relation avec le boss, quoi.
Oh, et
ça, c'est un truc de fou. Donc, t'as très peu de schémas où tu peux, enfin, tu le connais, les études sur Howard et Rosen d'Harvard. C'est-à-dire que on donne des cas à des étudiants et on leur demande ensuite d'analyser le manager. Et ils disent tous que Howard est particulièrement charismatique, qu'il a une personnalité forte, qu'il entraîne son équipe, alors que elle est vraiment très dure. Et évidemment, c'est le même cas. C'est juste que de la femme, on considère qu'elle est différente. Et donc ça, je pense qu'il faut lutter contre ces trucs-là qui sont des schémas et des stéréotypes très, très, très lourds.
Et comment tu vivais, toi, le fait qu'on te dise « Ok, t'es dur », parce que je pense que ça doit être chiant aussi, tu vois, de te dire « Oh bah, moi, j'ai juste l'impression d'être juste, tu vois, je voudrais juste une forme de justice. »
Ouais, je crois qu'il ne faut pas avoir à se justifier, en fait. Il faut vivre avec ça, et les autres sont durs aussi. Si on est dur, et si on est. Et puis, si vraiment on est trop dur, il faut se corriger. Mais non, moi, j'ai vécu avec le poids de ces stéréotypes. J'avais sans doute tort. Je me rends compte aujourd'hui que je ferais différemment.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tu ferais comment alors ?
Je serais moins complaisante avec l'injustice, parce qu'on était complaisant avec l'injustice quand on était une femme dans les médias dans ces 20 dernières années. Je te donne un exemple avec lequel j'ai discuté après tous les sujets MeToo.
Ouais.
Quand tu discutes avec toutes les femmes qui ont travaillé dans ce secteur-là, elles te disent toutes qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans les agences, il y avait des problèmes dans les entreprises. Mais quand tu discutes avec des femmes diplomates, avec des femmes commerçantes, elles te racontent toutes. Enfin, ça n'arrive jamais d'être dans un cercle de femmes où les femmes te diraient « Non, moi, j'ai jamais eu de problème. » Il y avait toutes des problèmes. Mais on était complaisantes parce qu'en fait, on portait pas plainte. C'est ça ce que j'appelle la complaisance. Aujourd'hui, tu porterais plainte et puis c'est tout.
Ouais, de mettre en action la justice.
Et ce serait ça. Enfin, et ce serait, on te dirait que tu es dur. Non, on te dirait juste que tu es juste.
Ouais, je vois ce que tu. Je vois. Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça le problème. Et donc, moi, j'ai traversé une époque où on encaissait, en fait.
Et comment tu vis, toi, en partant de la petite fille de 7-8 ans que tu racontais tout à l'heure, qui était très fifi, machin. C'est quoi, avec le recul, la transformation psychologique qui t'amène à te dire bah moi j'ai juste encaissé quoi, parce que la petite fille de 7-8 ans elle est pas forcément prête à
non elle est pas prête à encaisser. Je reviens tout le temps un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est un mélange de travail et de chance. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, j'ai sans doute eu de la chance parce que j'étais dans un secteur où on pouvait progresser, parce que c'était un secteur que tu as connu, qui est les médias qui avaient de la croissance. Mmh. Et quand on était bon, on était reconnu. Donc, c'est du travail et de la chance. Et puis, sans doute aussi, un entourage qui donne confiance. Et je pense qu'il faut qu'on parle un tout petit peu de la confiance.
Vas-y, faisons
parce
ça.
Parce que la différence entre les garçons et les filles, c'est un déficit de confiance sur les filles jeunes qui est de l'ordre de 14% entre 25 et 34 ans, qui heureusement se regagne. Et heureusement, à la fin de sa vie, on a autant confiance les hommes et les femmes. Mais ce déficit de confiance, il faut aider les filles à le gagner. On le voit pendant toute la scolarité, où on sait que une fille qui a 14, elle va dire qu'elle a échoué. Un garçon qui a 14, il va dire qu'il a réussi. Donc c'est un truc qui est très fort. Et on a besoin là des parents, des profs, de l'entourage, de la famille. Et moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un entourage qui avait confiance en moi.
Et comment tu l'as construit aussi cet entourage? Parce que je pense aussi que ça vient de toi à un moment donné. Tu rejetais les gens Est-ce que tu rejetais les gens qui te faisaient pas confiance d'une manière ou d'une autre?
Ben oui, puisque je changeais. Oui. Et puis la confiance, c'est effectivement quelque chose qui c'est en 360. C'est-à-dire que c'est la confiance que tu crées avec les autres. La fidélité. On n'a pas encore parlé de la fidélité. Mais la fidélité dans une carrière, c'est super, super important. Et je suis hyper étonnée. Je suis prof depuis 10 ans. Les élèves qui sont fidèles sont très peu nombreux. En fait, il y a pas mal d'élèves qui te demandent des services,
ouais.
Mais ceux qui donnent des nouvelles et qui continuent à entretenir une relation qui pourra leur servir, évidemment, sont pas très nombreux. Pareil dans la vie professionnelle, en fait, tout se construit parce que on a eu confiance, qu'on a la confiance de certains clients, qu'on a la confiance de certains collaborateurs, qu'on a donné confiance autour de soi, des institutions, etc. Et je pense que c'est super, super important.
Et tu penses vraiment, je voyais qu'il y avait tu as fait partie des, genre des 30 personnes influentes de GQ en 2013. Je voyais sur ta page, ouais, Wikipédia, il y avait 27 mecs et 3.
Bah oui. Mais tout le temps,
c'est
en fait.
C'est dramatique. Ça, c'est ta vie. Ça.
Tout le temps, en fait. C'était tout le temps comme ça, en fait. Et à chaque fois que tu demandais pourquoi, on te disait, mais c'est pas grave, ça va arriver, ça monte, la génération monte. Oui, mais combien de temps ça va prendre? Et souvent, d'ailleurs, la communication qu'on a à la Fondation des Femmes, donc ouais, qui est ce truc formidable qu'a lancé Anne-Cécile et tout un groupe de filles, c'est non, mais on va pas attendre 200 ans, en fait. C'est pas possible. Il faut maintenant que ça s'accélère.
c'est ton existence, ça.
Ouais.
Depuis
toujours, jusqu'au quota, en fait.
Tu regardes autour de toi,
quand les quotas arrivent, tout à coup, t'es appelée, enfin, t'es présidente de boîte depuis 10 ans. T'as jamais été appelée pour aucun conseil. Et tout à coup, tu reçois un coup de fil par semaine. Mais t'es humiliée. Tu te dis, mais comment c'est possible? T'es humiliée aussi pour, comme disait Yourcenar quand elle entre à l'Académie française, quoi. Il y a une cohorte de femmes invisibles, un cortège de femmes invisibles autour de toi. Et tu te dis, mais que c'est trop injuste, quoi. Et donc, soit tu dis non, t'envoies chier tout le monde, ce que j'ai fait au début. Soit tu te dis, mais non, il faut qu'on y aille, et il faut qu'on soit nombreuses, et il faut qu'on ouvre des portes.
Je comprends vraiment l'idée de, enfin, l'ego qui est blessé à ce moment-là, mais effectivement, la meilleure façon de se représenter, c'est d'y aller, quoi.
Ouais, c'est d'y aller et d'ouvrir des portes aux autres, quoi, et d'être sûr que les autres vont avoir des portes ouvertes.
Donc aujourd'hui, t'es au bord de plusieurs grosses boîtes, hein.
Ouais.
Justement, c'est grâce au quota que tu as eu ce genre
bien d'opportunité. Bien sûr, c'est uniquement grâce au quota. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Et d'ailleurs, j'avais même des amis qui étaient à la tête de boîtes industrielles qui me disaient, mais je t'assure que c'est pas possible. Qui, en fait, maintenant sont arrivés à dépasser le quota et qui me disent, je comprends pas que je disais ça, alors qu'évidemment, c'était très facile. Et qu'il y avait des tas de femmes, même s'il y avait peut-être pas beaucoup de femmes qui étaient aussi dans des conseils d'administration, mais il y avait des tas de femmes avocats, des tas de femmes qui avaient des jobs, des chercheuses, qui avaient des jobs passionnants, qui allaient apporter beaucoup dans un conseil.
Waouh. Ok. Ok, bon. Ça me fascine toujours cette histoire de quota,
oui.
Mais pour moi, effectivement, faut activer la pompe.
Oui, normalement, t'es contre les quotas parce que c'est absurde. Mais sauf que s'il n'y a pas d'autre solution. Et tu as le même problème d'ailleurs sur les entrepreneurs, hein, c'est-à-dire qu'on sait que les femmes font moins de levées, des levées moins importantes, sont moins nombreuses, souvent sont obligées de s'appareiller avec un associé parce que seules, elles savent qu'elles feront, elles arriveront pas à lever. Ça reste terrifiant en fait.
Il y a un autre truc aussi qui joue, je pense, c'est que les femmes arrivent avec des problèmes de femmes, souvent pour régler des problèmes de femmes avec des boîtes, et qu'en fait si elles se retrouvent face à des mecs qui ont aucune idée de ce que c'est que le problème d'une femme à ce moment-là, ouais, ils vont pas avoir la même oreille forcément.
Oui, peut-être, mais souvent elles arrivent aussi avec des problèmes de mecs. Enfin, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des problèmes de femmes. Non, c'est juste que spontanément on leur accorde moins de crédit. Il faut mettre plus le pied dans la porte.
Waouh. Après cette expérience chez Cara, ouais, t'as été devenue la boss aussi d'IG, c'est ça?
Oui, bah c'était la suite en fait. Ouais, c'était le groupe. Et puis ensuite, je vais avoir un cancer du sein, okay, qui va être un moment où là, la féminité te rappelle, se rappelle à toi sérieusement. Et aussi où je vais me dire, est-ce que mon objectif, c'est finalement de continuer cette ascension dans des groupes, d'avoir de plus en plus de pays, de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de filiales, ou est-ce que j'ai pas envie de repenser ma vie et de revenir à ce que j'aime vraiment? C'est-à-dire, et là, c'est un exercice que je conseille à tout le monde, en fait, qui consiste à se dire, qu'est-ce que j'aime vraiment? Et donc, je me suis dit, ce que j'aime vraiment, c'est les petites boîtes dans lesquelles on connaît une aventure incroyable, une croissance d'audience, de revenus, où tout le monde grandit. Ce que j'aime vraiment, c'est l'international. J'aime pas les trucs franco-français. Et j'aime vraiment le digital. Et quand une chasseuse de tête va me proposer au féminin, c'est exactement ça.
Quand tu dis que tu le conseilles à tout le monde, tu le conseilles à tout le monde avant de tomber malade? Non, mais parce que peut-être.
Non, mais même en étant malade ou même en. Je ne m'associe pas la maladie, voilà, à ça. Je conseille vraiment à certains moments de sa vie. Et même si c'est difficile, parce que changer de vie, c'est difficile. Il faut tout réapprendre. Il faut vraiment rebattre des cartes. Mais c'est vraiment une aventure passionnante.
Parce que là, tu arrives chez OFEM, de ce fait-là, t'as.
Je connais rien à ce métier-là. J'ai jamais été éditeur. Je n'ai jamais été uniquement à la tête d'un actif digital, etc. Donc, je réinvente là.
Comment ça se passe dans cette boîte qui, en plus,
elle a un nouvel actionnaire qui est Axel Springer et qui se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si on a le temps de tout raconter parce que c'est long, mais tout cas. Ce que j'ai essayé de faire en arrivant, c'est j'ai essayé de dire tout de suite ce que je trouvais formidable et ce que je trouvais très inquiétant. Et j'ai fait une plénière où j'ai dit les 7 choses qui m'apparaissaient énormes. Je sais pas, pour te donner un exemple, j'ai dit on est un média digital, donc c'est cool, mais en fait on est du print digital.
Ouais.
On n'a aucune culture vidéo, on écrit des textes. Et ça va être un danger monstrueux pour les années à venir. C'est pas très agréable parce que la boîte, elle n'est pas très contente d'entendre alors qu'elle croit que. Mais en même temps, ça va être très, très utile pour la suite de la stratégie.
Parce que.
Tu vois, je vais dire, c'est exceptionnel parce qu'on a des communautés. Mais en même temps, on ne vend pas nos communautés, on fabrique de l'édito pour aller vendre de la pub. On fait comme si on croyait pas à nos communautés. Et en fait, à ce moment-là, c'est avant l'explosion de Facebook qui, lui, va monétiser ses communautés alors que nous, on les monétise pas. Tu vois, donc c'est d'essayer de faire un diagnostic sans aucune complaisance, sans aucune méchanceté aussi. Enfin, j'espère que personne ne l'a ressenti comme quelque chose, mais d'essayer de provoquer quelque chose qui va avoir une grosse influence sur la vision que tu peux porter sur la boîte. Et quand je vais quitter 8 ans plus tard, en fait, j'ai repris ces 7 trucs en disant qu'est-ce qu'on a fait et de quoi est-ce qu'on peut être fier.
Et alors?
On pouvait être très fier.
Non, mais c'est vrai que tu as complètement changé la boîte.
Parce qu'on a complètement changé. Ouais. On a changé. On est devenus beaucoup plus internationaux, beaucoup plus dans la vidéo. On a changé de business model. On est allé vers l'e-commerce massivement. On a été racheter des petites entités qui, avec nous, et à la fois nous ont appris énormément de choses et à qui on a appris énormément de choses. Donc, avec Netmoms, avec My Little Paris, avec Marmiton, on est allé vraiment garder cet esprit un peu pionnier, garder cet esprit de petite entité qui travaillait pour la défense de sa petite boutique, mais en même temps qui créait une sorte de grand network d'entraide. Et moi, c'est ce modèle-là qui m'intéresse. C'est le family business qui se serre les coudes.
Et tout ton truc, j'ai l'impression, ça a été d'aller chercher des revenus complémentaires pendant toutes ces années-là à la publicité.
Oui. Moi, je venais de la publicité et j'étais convaincue que la publicité était condamnée. Voilà. Donc, c'est une obsession. Et quand je vois maintenant le modèle de l'abonnement pour l'ensemble des médias et finalement le fait que tous les médias ont envie de ressembler à Netflix, je me dis qu'effectivement, il fallait accélérer la mutation.
Ok. 8 ans plus tard, la boîte se fait racheter par TF1, c'est
oui,
ça ?
Oui, par TF1, qui justement veut aussi profiter de cette mutation, profiter de cette transformation, parce que ils ont l'intelligence de voir que le business model de la publicité va être challengé. Et moi, je repars avec un bâton de pèlerin qui est de dire, recommençons. Finalement, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je vais vers des trucs de plus en plus à la fois jeunes et petits. C'est-à-dire, j'ai démarré dans la presse quotidienne et je finis dans le social e-commerce. Ouais. Donc, enfin, j'espère que je finis pas parce que j'ai encore plein d'autres trucs à faire, mais j'ai cette idée de que finalement, faire une chaîne TikTok, c'est plus important dans le social e-commerce que d'être dans les médias traditionnels.
Ouais, ouais. Donc, tu montes une boîte, une marque de cosmétiques.
Ouais, des marques de cosmétiques en ligne.
Ouais, des marques.
Parce qu'on en a 4. Ouais. Qui sont très pointues. C'est ce qui s'appelle les DNVB, c'est-à-dire vraiment avoir une niche. Donc, Mélusine, on est vraiment dans les gestes magiques et le chanvre. Rose la Lune, on est dans un make-up vegan, naturel, très parisien. Kimber Cosmetics, c'est... au contraire, une inspiration californienne de transformation avant-après sur la base de masques qui vous transforme. Et la Maison des Sultans, c'est une marque qui est sur tous les produits qui viennent de l'Orient, donc l'argan, le nigel, le miel, etc., qui sont aussi vraiment ce que j'aime.
Qu'est-ce qui te donne envie de passer... Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment un gros virage. Hein.
Oui, c'est un gros virage.
T'as jamais fait ça de ta vie?
Non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et ben, je vais apprendre. Et puis, ça fait du bien de se remettre à faire. Quand tu montes dans une organisation qui a 550 personnes, etc., tu quittes le terrain. Se remettre sur le terrain de répondre soi-même à un commentaire d'une acheteuse, de refabriquer des produits, de recommencer tout à zéro, c'est très très enrichissant.
Parce que là, tu montes cette boîte avec ta fille.
Avec ma fille, avec sa cousine, sa copine, avec que des jeunes, et puis avec un associé, donc qui me rejoint, qui est Benjamin.
Ok. Comment ça se passe de bosser avec ta fille ?
Formidable.
Ouais.
Ouais, pas de surprise parce que tu peux pas découvrir différemment ta fille. On se connaît suffisamment.
Ouais,
ou ta mère.
Mais de travailler avec elle, c'est quand même un peu particulier.
Mais on a toujours fait ça parce qu'en fait, depuis qu'elle a 10 ans, elle achète des cosmétiques sur Aromazone et elle fabrique dans la salle de bain des cosmétiques. Donc en fait, on a toujours fait ça.
Donc c'est ta fille qui s'occupe pour le coup du produit?
Beaucoup, ouais, ouais. Beaucoup. Et c'est un immense plaisir.
Qu'est-ce que, je sais pas, t'as un grand sourire là d'un coup.
Oui, les sourires, ça se voit pas sur les podcasts.
Non.
Bah oui, parce que on est très heureux quand on aime ce qu'on fait. C'est ce qu'on retourne de la conversation du début.
Ouais.
C'est difficile, hein. C'est très difficile d'être entrepreneur. Tu as des obstacles partout. On en rencontre à chaque minute. Mais il y a des moments de joie quand même très très grands aussi.
Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de venir à cette création d'entreprise à ce moment-là, après tout ce parcours-là et de te dire
D'abord,
c'est le moment ou jamais?
Bah, d'abord, tu n'as pas de proposition quand tu quittes un job que tu as réussi comme ça. Donc, c'est...
Personne n'est venu te voir en disant...
Personne vient te voir en disant « c'est chouette ce que vous avez fait, essayez de le faire pour nous ». Parce que non, c'est comme ça.
Ouais.
Et donc, si tu veux, il faut recommencer quelque chose toi. Donc, et alors, tu pourrais lever de l'argent, et moi, je ne voulais pas lever d'argent. Parce que je voulais que ce soit, encore une fois, ce que j'aime, c'est que ce soit sa boutique. Je préfère que ce soit plus petit, plus difficile, mais qu'on ne joue pas avec l'argent des autres.
Oui, c'est une vraie philosophie, ça.
Oui, il y a beaucoup d'argent dehors. C'est très, très facile de lever de l'argent. Et c'est alors là, pour le coup, en revanche, j'ai eu énormément de propositions de fonds qui voulaient mettre de l'argent parce qu'ils avaient vu le business case. Ils avaient vu qu'on était passé, on avait multiplié par 3 ou 4 l'audience, les revenus, les pays, tout. Donc ça attirait des gens de revivre cette expérience-là. Donc il y avait des gens qui me proposaient de l'argent, mais je trouvais que c'était invraisemblable de proposer de l'argent sans que t'aies de projet. Donc moi, je préférais qu'on parte sur un projet et puis qu'on le développe et qu'on fasse nos preuves. Peut-être qu'on rate si c'est nécessaire ou qu'on réussisse, mais que on soit libre. La liberté, c'est aussi quelque chose de très important.
Et elle a un prix.
Et elle a un prix.
Elle vaut cher.
Le travail.
Non, mais c'est pas ça. C'est que quand tu lèves de l'argent aussi, et je pense qu'il faut peut-être le dire pour les auditeurs et les auditrices plus jeunes, c'est que d'un coup d'un seul, ta boîte t'appartient plus, quoi.
Non, ta boîte t'appartient pas. Et puis, elle appartient à d'autres qui vont te faire des choses qui ne sont pas forcément ce que tu veux faire. Donc, c'est aussi important de savoir que tu ne peux compter que sur toi. Ça te donne une responsabilité, donc ça t'empêche un peu de dormir, mais ça t'oblige, comme tu es en train de le faire toi, finalement, à savoir exactement ce que tu veux faire et comment le faire.
C'est tellement important.
Ah oui, c'est important.
De reprendre ce temps-là. C'est quoi les projets pour ta boîte? Parce que tu as aussi monté une autre boîte qui s'appelle Factor K,
oui.
C'est ça?
En fait, j'ai d'abord monté Factor K. Factor K, c'est l'idée d'une boîte de conseil dont l'objectif, c'est de définir des projets à base de viralité et de search. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Ça ressort de l'expérience d'Au Féminin. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que, par exemple, My Little Paris a le mieux réussi, ou Marmiton, c'est vraiment spectaculaire. Donc, du coup, on s'interdit rien. À l'intérieur de Factor K, on investit dans des projets, et j'accompagne 4 entreprises à laquelle je crois énormément. Qui sont exactement ça. Par exemple, si je prends l'exemple de Chef Club ou de Thriller, c'est deux boîtes qui sont parties entièrement sur la rivalité, faire des audiences et trouver des moyens pour les monétiser. Donc ça, c'est mon cœur de métier. C'est en fait mon histoire, c'est ça. C'est créer des audiences et trouver des moyens de les monétiser. Et je suis pleine d'admiration de Chef Club. Chef Club, tu sais ce que c'est? C'est une très grosse communauté dans la cuisine.
Page Facebook,
voilà.
C'est ça?
Oui, mais
vidéos.
Pas seulement.
Ouais.
C'est 1,5 milliard de vidéos par mois, et les moyens de les monétiser sont complètement dingues puisque c'est des livres, c'est des ustensiles, etc. Bon, Thriller, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une boîte qui fait des audiences comme TikTok et qui trouve des moyens de monétisation qui n'ont rien à voir avec ce qu'ont été les moyens de monétisation par le passé. Voir par exemple en Chine, les moyens de monétisation des plateformes, ou des influenceurs, c'est les gens qui payent, c'est pas la pub. C'est les gens qui payent les fameux calls, c'est-à-dire les influenceurs pour le travail qu'ils font. Ce qui est quand même assez fascinant. Donc ça, c'est mon travail. Et là-dedans, on étudie plein de projets dans lesquels il peut y avoir aussi des médias, puisque l'idée, c'est de définir des projets qui vont avoir une forte viralité. Et puis, on lance des marques, parce que mon idée aussi, c'est de pas être une boîte de conseils qui donne des conseils dans le vide. Je déteste en fait les gens qui donnent des conseils dans le vide, mais c'est de les expérimenter. Et donc, nos 4 marques, elles nous permettent d'expérimenter les conseils qu'on donne.
D'accord. Mais donc, pas de marque média. C'est fini.
Ah non, c'est pas fini. Il faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai plus ton eau. Non, pas du tout. Non, c'est juste que, typiquement, Chef Club et Thriller, c'est des marques médias.
Ouais.
Mais là, je suis très minoritaire. Mais il peut y avoir d'autres projets, non? Il peut y avoir des projets, mais ce qui est plutôt fini, c'est l'ancien modèle de la publicité.
Ouais. T'es vraiment convaincue de ça?
Non, c'est le chiffre, c'est-à-dire que les Google et Facebook attrapent 80% de la croissance de la publicité digitale, donc c'est pas la peine d'aller se battre
pour le petit gâteau.
Les miettes.
Ouais. Pour les miettes qui restent. Merci beaucoup Marie-Laure. Tu voulais parler tout à l'heure d'être au bon endroit au bon moment, et justement il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment à mes invités, c'est leur demander c'est quoi le plus gros, enfin le la leçon que vous avez apprise de votre parcours en particulier?
Moi, je crois que c'est l'optimisme.
Ouais.
C'est que l'optimisme te fait faire des choses auxquelles tu peux pas croire, alors que quelquefois le stress te paralyse. Donc, cultiver l'optimisme, ça me paraît le meilleur conseil qu'on peut donner.
T'as fait comment, toi, tout au long de ton parcours ?
Beaucoup de yoga.
À ce point-là ?
Oui, parce que le yoga t'ancre dans le présent. Tu ne te redis pas tous les problèmes que tu as eus par le passé et tous les problèmes que tu vas avoir demain. Tu t'ancres dans le présent.
Tu es juste obligé de t'étirer à ce moment-là, tel muscle de ton corps ?
Même pas, là, c'est encore, tu attends encore quelque chose.
Ah,
non, tu vois. Non, même pas. Non, juste de vivre l'instant présent. Et de travailler cet optimisme. C'est-à-dire que la vie te file des coups terribles, mais elle t'offre des bonheurs immenses aussi.
Je crois qu'on va.
On va finir là-dessus. Oh,
non, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Un grand merci à toi, Marie-Laure.
Merci beaucoup, Fabrice.
Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.